Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 6, scène 1. Kutuzov, ayant accepté le commandement en chef des armées, se souvint du prince André et le manda au quartier général. Ce dernier arriva à Ksarevo Saïmitché le jour même où Kutuzov passait pour la première fois les troupes en revue. Il s'arrêta dans le village, s'assit sur un banc devant la porte de la maison du prêtre et attendit son Altesse, ainsi que tous appelaient aujourd'hui le général en chef. Dans les champs, derrière le village, retentissaient les fanfares militaires, couvertes par de formidables acclamations en l'honneur du nouveau commandant. À 10 pas du prince André, deux domestiques militaires de la suite de Kutuzov, dont l'un remplissait les fonctions de courrier et l'autre celle de maître d'hôtel, profitaient du beau temps et de l'absence de leur maître pour prendre le frais. À ce moment, arriva à cheval un lieutenant-colonel de hussards. Il était de petite taille, brun de teint, et portait d'énormes moustaches et d'épais favoris. À la vue du prince André, il s'arrêta et lui demanda si c'était bien là que son Altesse était descendue et si on l'attendait bientôt. André lui répondit qu'il ne faisait point partie de l'état-major du prince et qu'il n'était là que depuis quelques minutes. Le hussard s'adressa alors à l'un des domestiques. Le domestique répondit à sa question avec cet air dédaigneux qu'affectent d'ordinaire les gens des commandants en chef en s'adressant à des officiers subalternes.
« Qui, son Altesse ? Elle sera ici tout à l'heure. Que demandez-vous ? »
Le colonel sourit dans sa moustache à ce ton impertinent, descendit de cheval, jeta la bride à son planton et s'approcha de Bolkonski, qu'il salua. Bolkonski lui rendit son salut et lui fit place à côté de lui sur le banc.
« Vous aussi vous attendez le commandant en chef ?»
lui demanda le nouveau venu.
« On le dit accessible, c'est bien heureux »
poursuivit-il en grasseyant.
« Autrement, si on avait encore affaire aux mangeurs de saucisses, ce serait la mer à boire. Ce n'est pas pour rien que Yermolov a demandé à être compté parmi les Allemands. Espérons que les Russes auront maintenant voix au chapitre. Le diable seul sait où l'on voulait en venir avec toutes ces retraites. Avez-vous fait la campagne ?»
« Non seulement j'ai eu le plaisir de la faire, »
répliqua le prince André,
« mais aussi de perdre, grâce à elle, tout ce que j'avais de plus cher, mon père qui vient de mourir de chagrin, sans compter ma maison et mon bien. Je suis du gouvernement de Smolensk. »«
Ah, vous êtes sans doute le prince Bolkonski, charmé de faire votre connaissance. Je suis le lieutenant-colonel Denisov, plus connu sous le nom de Vaska Denisov. »
dit le hussard en serrant cordialement la main au prince André et en le regardant avec un affectueux intérêt.
« Oui, je l'avais appris, »
dit-il d'un ton plein de sympathie.
« C'est bien là une guerre de sites, »
ajouta-t-il en reprenant, après un court silence, le fil de ses pensées.
« Tout cela peut être parfait, mais pas pour celui qui paye les pots cassés. Ah, vous êtes le prince André Bolkonski. » « Je suis vraiment bien aise de faire votre connaissance. »
répéta-t-il, en hochant la tête avec un triste sourire et en lui serrant de nouveau la main. Le prince André connaissait Denisov par ce que lui en avait dit Natacha. Cette réminiscence, en réveillant en lui les pénibles pensées qui, dans ces derniers mois, commençaient à s'effacer de son esprit, lui fit de la peine et du plaisir à la fois. Il avait éprouvé depuis lors tant d'autres secousses morales, l'abandon de Smolensk, sa visite à Lissigori, la nouvelle de la mort de son père, que ses anciens souvenirs ne revenaient plus aussi souvent à sa mémoire, et il sentit qu'ils avaient perdu de leur douloureuse intensité. Pour Denisov aussi, le nom de Bolkonski évoquait un passé lointain et poétique. La soirée où, après le souper et la romance de Natacha, il avait, sans savoir comment, fait une déclaration à cette fillette de 15 ans. Il sourit en songeant à son roman et à son amour et reprit aussitôt le thème qui seul l'intéressait et le passionnait aujourd'hui. C'était un plan de campagne que, durant la retraite, il avait composé, étant de service aux avant-postes. Il l'avait présenté à Barclay de Tolly et comptait le soumettre également à Kutuzov. Son plan était fondé sur les considérations suivantes. la ligne d'opération des Français étant beaucoup trop étendue, il fallait, tout en les attaquant de front pour les empêcher d'avancer, rompre leurs communications.
« Ils ne peuvent soutenir une aussi grande ligne d'opération, »
se disait-il.
« C'est impossible. Qu'on me donne 500 hommes, et je me fais fort de l'enfoncer. Parole d'honneur ! Il n'y a qu'un moyen d'en venir à bout, la guerre de partisans et pas autre chose. »
Denisov s'était levé pour mieux exposer son projet avec sa vivacité accoutumée lorsqu'il fut interrompu par les cris et les hurrahs qui partaient de la plaine, plus violents que jamais, qui se confondaient avec la musique et les chants qui se rapprochaient de plus en plus. Un bruit de chevaux se fit au même moment entendre à l'entrée du village.
« C'est lui !»
s'écria un cosaque qui se tenait à l'entrée de la maison. Bolkonski et Denisov se levèrent et se dirigèrent vers la porte où se trouvait une escouade de soldats. C'était la garde d'honneur, et ils aperçurent, à l'autre bout de la rue, Kutuzov monté sur un petit cheval bai, s'avançant vers eux et suivi d'un nombreux cortège de généraux. Barclay de Tolly, également à cheval, marchait à côté de lui, et une foule d'officiers criant « Hourra !» caracolait autour d'eux. Les aides de camp de Kutuzov s'élancèrent en avant, le dépassèrent et entrèrent les premiers dans la cour de l'habitation. Le commandant en chef talonnait avec impatience son cheval fatigué qui s'était mis à aller lamble sous son poids, et il saluait à droite et à gauche en portant la main à sa casquette blanche, bordée de rouge, et à sa visière. S'arrêtant devant la garde d'honneur, composée de beaux grenadiers, décorés et chevronnés pour la plupart, qui lui présentèrent aussitôt les armes, et il garda un instant le silence en les examinant d'un regard scrutateur. Une expression ironique passa sur son visage, et, se tournant vers les officiers et les généraux qui l'entouraient, il haussa légèrement les épaules.
« Et dire cependant, »
murmura-t-il avec un geste d'étonnement,
« que c'est avec de pareils gaillards qu'on se retire devant l'ennemi. Au revoir, messieurs !»
ajouta-t-il en entrant par la grande porte et en effleurant le prince André et Denisov.
« Hourra ! Hourra ! »
criait-on derrière lui. Kutuzov s'était singulièrement épaissi et alourdi depuis la dernière fois que le prince André l'avait vu. Mais son œil blanc, sa cicatrice et l'expression ennuyée de sa physionomie étaient toujours les mêmes. Une étroite courroie passée en sautoir laissait pendre un fouet sur sa capote militaire. En entrant dans la cour, il poussa un soupir de soulagement, comme un homme heureux de se reposer après s'être donné en spectacle. Puis il retira de l'étrier son pied gauche, en le renversant pesamment en arrière, et, fronçant les sourcils, il le ramena avec peine sur la selle, plia le genou et se laissa glisser en frémissant dans les bras des cosaques et des aides de camp qui le soutenaient. Une fois sur pied, il jeta de son œil à moitié fermé un regard autour de lui, aperçut le prince André, sans toutefois le reconnaître, et fit, en se balançant, quelques pas en avant. Arrivé au perron de la maison, il toisa de nouveau le prince André, et, comme il arrive souvent aux vieillards, il lui fallut quelques secondes pour mettre enfin un nom sur cette figure qu'il avait frappée tout d'abord.
« Ah, bonjour, prince, bonjour, mon ami. Allons, viens !»
dit-il avec effort, en montant péniblement les marches, qui craquaient sous son poids. Déboutonnant ensuite son uniforme, il s'assit sur un banc et lui dit
« Et ton père ? J'ai reçu hier la nouvelle de sa mort. »
répondit brièvement le prince André. Kutuzov le regarda d'un air surpris et effrayé, se découvrit et se signa.
« Que la paix soit avec lui, que la volonté de Dieu s'accomplisse sur nous tous. »
Un profond soupir s'échappa de sa poitrine.
« Je l'aimais, je l'estimais. »
reprit-il après un moment de silence.
Et je prends une part sincère à ta douleur. »
Il embrassa le prince André et le tint longtemps serré contre sa grosse poitrine. André remarqua que les lèvres gonflées de Kutuzov tremblaient et qu'il avait les yeux pleins de larmes.
« Viens, viens chez moi, nous causerons, »
dit-il, et il essayait de se lever en s'appuyant des deux mains sur le banc lorsque Denisov, aussi hardi en face de ses chefs qu'en face de l'ennemi, monta résolument les marches du perron et s'avança vers lui, en dépit des observations des aides de camp. Kutuzov, toujours appuyé sur ses deux mains, le regardait s'approcher avec impatience. Denisov se nomma et lui déclara qu'il avait à communiquer à son Altesse une affaire de haute importance, pour le bien de la patrie. Kutuzov croisa ses mains sur son ventre d'un air de mauvaise humeur et répéta nonchalamment
« Pour le bien de la patrie, dis-tu. Qu'est-ce que ça peut être ? Parle. »
Denisov rougit comme une jeune fille. Cette rougeur forma un étrange contraste avec son épaisse moustache et son visage aviné et vieilli. Il n'en entama pas moins, sans broncher, l'exposition de son plan, dont le but était de couper la ligne de l'ennemi entre Smolensk et Vyazma. Il connaissait la localité sur le bout du doigt, car il l'habitait. La chaleur et la conviction qu'il mettait dans ses paroles faisaient ressortir les avantages de sa combinaison. Kutuzov, les yeux baissés, regardait à terre, en jetant parfois un coup d'œil furtif vers la cour de l'isba voisine, comme s'il s'attendait de ce côté à quelque chose de désagréable. En effet, un général en sortit bientôt avec un gros portefeuille sous le bras et se dirigea vers lui.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Kutuzov au beau milieu du plaidoyer de Denisov.
« Vous êtes prêt ?»« Oui, Altesse, »
répondit le général. Kutuzov hocha mélancoliquement la tête, comme s'il venait de dire qu'il était impossible à un seul homme de suffire à tout, et continua à écouter le hussard.
« Je vous donne ma parole d'honneur de bon officier, »
disait Denisov,
« que je romprai les lignes de communication de Napoléon. »
Kutuzov l'interrompit.
« Kirill Andreevitch de l'intendance est-il ton parent ? C'est mon oncle, »
répliqua Denisov.
« Nous étions amis, »
reprit gaiement Kutuzov.
« Bien, très bien, mon ami. Reste ici à l'état-major. Demain, nous reparlerons de tout cela. »
Le saluant d'un signe de tête, il se détourna et tendit la main vers le papier que lui apportait Konovnitsyn.
« Votre Altesse ne serait-elle pas mieux dans une chambre ?»
demanda un général de service.
« Il y a des plans à revoir et des papiers à signer. »
Un aide de camp parut au même moment sur le seuil de la maison et annonça que l'appartement était prêt pour recevoir le commandant en chef. Celui-ci fronça les sourcils à cet avis, car il ne voulait y entrer qu'après avoir expédié toute sa besogne.
« Non, »
dit-il.
« Faites-moi apporter ici une petite table. Et toi, ne t'en vas pas, »
ajouta-t-il en se tournant vers le prince André. Pendant que le général de service faisait son rapport, le froufrou d'une robe de soie arriva jusqu'à eux par la porte entrebâillée de la maison. Le prince André regarda et aperçut une femme, jeune, jolie, habillée de rose et coiffée d'un mouchoir de soie mauve. Elle tenait un plateau. L'aide de camp de Kutuzov expliqua tout bas au prince André que c'était la maîtresse du logis, la femme du prêtre, dont le mari avait déjà reçu son Altesse avec la croix à la main et qui tenait à lui souhaiter la bienvenue avec le pain et le sel.
« Elle est très jolie, »
ajouta l'aide de camp avec un sourire. Kutuzov, que ce dernier mot avait frappé, se retourna. Le rapport du général de service avait pour projet principal de critiquer la position prise à Tsarevo Saïmitché, et Kutuzov lui prêtait la même attention distraite qu'il avait prêtée à Denisov, et s'étant auparavant aux discussions du conseil militaire, la veille de la bataille d'Austerlitz. Il n'écoutait que parce qu'il avait des oreilles, et parce qu'elles entendaient malgré lui et malgré le petit morceau de câble de vaisseau qu'il portait dans l'une d'elles. On voyait du reste qu'il n'était surpris ni intéressé par rien, qu'il savait d'avance ce qu'on pourrait lui raconter et qu'il se contentait de le subir jusqu'au bout, comme on eût subi un tédéum d'action de grâce. Denisov lui avait dit des choses sensées et sages. Le général de service lui en disait d'autres encore plus sensées et encore plus sages, mais Kutuzov dédaignait le savoir et l'intelligence. Ce n'était pas là, à son avis, ce qui trancherait le nœud de la situation. C'était quelque chose d'autre, complètement en dehors de ces deux qualités. Le prince André suivait attentivement l'expression de sa physionomie, qui marqua d'abord l'ennui, puis la curiosité éveillée par le froufrou de la robe, et enfin le désir d'observer les convenances. Il était évident que, s'il témoignait du dédain pour le patriotisme intelligent de Denisov, c'est qu'il était vieux et qu'il avait l'expérience de la vie. Il ne prit qu'une seule disposition concernant les maraudeurs. Le général de service présenta à sa signature l'ordre au chef de corps de payer une indemnité pour les dégâts commis par les soldats, à la suite des plaintes d'un propriétaire dont il avait saccagé l'avoine encore verte. Kutuzov serra les lèvres et secoua la tête.
« Au feu, au feu !»
s'écria-t-il.
« Une fois pour toutes, mon ami, jette toutes ces balivernes dans le poêle. Qu'on coupe le blé, qu'on brûle le bois tant qu'on voudra, je ne l'ordonne ni ne l'autorise. Mais il n'est pas en mon pouvoir de l'empêcher ni d'indemniser les gens. Lorsqu'on fend le bois, les copeaux volent. À la guerre comme à la guerre. »
Il parcourut encore une fois le rapport.
Oh !
Dit-il.
Cette minutie allemande !